Chapitre 44. Parisa Rajen ralentit et s'engage sur la route 229. Il passe en silence devant des bâtiments industriels bas et des bosquets qui servent manifestement de dépotoir. Son visage est pâle, sa bouche tendue. Le dos droit, elle tient le volant des deux mains. Juna a cessé de demander où ils se rendent. Son microphone est hors de portée depuis longtemps. La seule chose qu'il peut faire, c'est mener à bien l'infiltration aussi longtemps que possible. La mission de Parisa est peut-être de le conduire à la planque des terroristes. Elle ralentit derrière un camion muni d'une bâche couleur cire. Le pare-brise craque comme s'il avait pris un caillou. « Je ne sais pas de quel côté tu es, mais Salim ne te demanderait pas de transmettre un message de notre voisin si ce n'était pas important, » dit-elle soudain, et elle change de fil. « Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas transmis le véritable message ?»«
Tu ne m'as pas servi de pain. »«
Bien, » chuchote-t-elle. Elle roule côte à côte avec le poids lourd. À gauche, la glissière de sécurité défile à toute vitesse. Une rafale soudaine fait tanguer le semi-remorque. « Salim m'a donné un numéro de téléphone. Tu dois appeler le 040 689 3040 et demander à Mira. » Parisa sursaute en entendant le nom et la voiture fait une embardée. Les roues avant du poids lourd obstruent la fenêtre côté passager. Le bruit du moteur tonne dans l'habitacle. « Et c'est tout, » dit Juna à voix basse. Elle serre fort le volant, accélère et dépasse l'énorme véhicule. « Répète le numéro, » demande-t-elle en déglutissant. « 040 689 3040. » Elle se rabat sur la file de droite, sort brusquement de la route principale et se voit obligée de freiner si brutalement qu'un atlas routier posé sur la banquette arrière tombe entre les sièges. Il dépasse un immense bâtiment industriel, puis Parisa s'engage sur un grand parking goudronné entre une station-service et un McDonald's où elle fait demi-tour, recule vers le talus et s'arrête. La lumière statique des phares éclaire le goudron jusqu'aux pompes à essence sous le toit plat. Sur la gauche, une famille sort du fast-food, de petits drapeaux à la main. Parisa laisse tourner le moteur et baisse les vitres des deux côtés. Sans dire un mot, elle ouvre sa portière et descend, tend la main sous le siège et en sort un Glock. Elle referme la portière, recule et pointe l'arme sur Juna par la fenêtre ouverte. « Sors lentement de la voiture, » ordonne-t-elle. « Je n'ai rien à voir avec tout ça, je ne fais que transmettre. Lève les mains, » l'interrompt-elle rudement. « Je sais que tu es armé. » Simple mesure de précaution. Le pistolet dans sa main tremble. Son doigt est posé sur la queue de détente. Si elle tire, il y a peu de chances qu'elle le rate. « Je n'ai aucune idée de ce qui se trame, mais j'ai grandi en Afghanistan et j'ai vu le tireur d'élite à la fenêtre de l'autre côté de la rue. »«
Je ne sais pas ce que tu as vu. »«
Descends de la voiture, sinon je tire, » dit-elle en élevant la voix. « Je n'y tiens pas, mais je le ferai si tu m'y obliges. »
« C'est bon, je m'en vais, » lâche Juna.
Et il ouvre doucement la portière et sort.
« Laisse-moi voir tes mains. »«
Qui est Amira ? Éloigne-toi de la voiture sans te retourner. » Juna se redresse en lui tournant le dos. Il voit qu'il y a trois voitures garées devant le fast-food. Le vent fait violemment claquer les quatre oriflammes, faisant vibrer les mâts.
« Plus loin, » dit-elle, et elle rouvre sa portière tout en continuant à le viser.
Juna commence à marcher en direction des voitures garées. Parisa prend place au volant, l'arme toujours pointée sur Juna.
« Je pourrais peut-être t'aider, » propose-t-il en s'arrêtant.
« Continue de marcher, » lance-t-elle derrière lui. Il fait encore quelques pas et voit un homme corpulent sortir du McDonald's, un sac en papier à la main. L'homme se laisse tomber sur le siège conducteur de sa Volvo, glisse la clé de contact dans la serrure et commence à manger son hamburger au-dessus du sac en papier.
Juste pour que tu le saches, poursuit-elle avec une pointe d'hystérie dans la voix, si vous essayez de m'utiliser pour faire chanter Salim, ça ne marchera pas. Vous pouvez faire une croix dessus. J'ai déjà déposé une demande de divorce. Il se fout complètement de ce qui pourra m'arriver.
Je suis en dehors de tout ça, redit Juna, et il l'entend poser le pistolet sur le siège passager.
Continue de marcher, je te promets, je tire si tu t'arrêtes encore une fois.
À l'instant où il l'entend démarrer en trombe, il se met à courir. Il saute par-dessus la haie basse, ouvre la portière de la Volvo et arrache de son siège l'homme qui mange son hamburger.
Le gros gobelet s'écrase sur le bitume, du Coca-Cola gicle et des glaçons se brisent. L'homme roule sur lui-même et se rattrape sur le coude. Juna voit que Parisa est en train de perdre le contrôle de sa voiture en amorçant un virage serré devant le bâtiment industriel. Il démarre le moteur et enclenche la première, appuie sur l'accélérateur et passe tout droit à travers la haie soigneusement taillée. Des clubs de golf s'entrechoquent sur la banquette arrière quand les roues retrouvent le goudron de l'autre côté des plantations. L'homme corpulent se relève et, planté parmi les restes du hamburger, les feuilles de salade, les frites et les sachets de ketchup, il regarde sa voiture grimper le talus raide pour rejoindre la route. Juna traverse l'allée piétonne et l'accotement semé de fleurs des prés, tourne brutalement à droite et rejoint la grande route. La Volvo dérape à travers les trois fils et continue de glisser quand il écrase le champignon. La roue arrière gauche heurte violemment le terre-plein central. L'enjoliveur brille brièvement dans le rétroviseur quand il dégringole sur la voie d'en face. Le voyant d'essence de la Volvo s'allume sur le tableau de bord au moment où, plus loin, Parisa tourne sur Hödingewegen. Il double une fourgonnette blanche, monte à 140 km à l'heure, mais ralentit dès qu'il aperçoit l'Opel sale, une centaine de mètres devant lui. Il se remet sur la voie de droite en laissant deux véhicules le séparer de Parisa, prend son téléphone, appelle Janus Mikkelsen et lui donne tous les renseignements qu'il a sur la voiture de Parisa et sur leur position et direction actuelle.
Parfait, je vois le topo, répond Janus. Tiens-nous au courant. J'attendrai le feu vert du QG pour rediriger le dispositif.
Je ne sais pas ce qu'il se passe ni où on va, lui explique Juna. J'ai assez d'essence pour faire environ 50 km de plus, il me faudra du renfort d'ici là.
Depuis que le témoin de réserve s'est allumé, il reste 8 litres d'essence dans le réservoir. Normalement, c'est suffisant pour couvrir une cinquantaine de kilomètres. Mais comme il conduit à une vitesse excessive, le trajet sera un peu plus court. Il ignore totalement où Parisa se rend, mais ne voit pas d'autre option que de la suivre aussi longtemps que possible. Il roule vers le nord, à l'ouest de Stockholm, et pense à l'étrange nervosité de Parisa, à sa tentative de faire la conversation avant de découvrir l'un des tireurs d'élite et de chercher à tout prix à s'échapper. 30 minutes plus tard, Juna descend une longue pente qui longe un terrain de golf. Le vent souffle fort. De puissantes rafales secouent la voiture. En dépassant le centre commercial d'Okersberga, le long d'une voie ferrée, il se souvient d'être venu ici plusieurs années plus tôt avec son ami Eric. Ils avaient fait une macabre découverte dans un appartement en face de la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Il aperçoit une station-service avec des voitures de location et des remorques bâchées. S'il s'arrête pour prendre de l'essence, il perdra la trace de Parisa. Elle se volatiliserait. Il faut prendre le risque, même si le réservoir sera vide dans quelques kilomètres. Juna appelle Janus pour lui dire brièvement qu'il a dépassé le centre commercial d'Okersberga et qu'il continue sur la route Roslagswegen. Pendant qu'il conduit, la forêt et les prés disparaissent lentement dans le crépuscule, comme si quelqu'un soufflait les bougies d'un monde irréel. Les feux arrière rouges sont visibles au loin, mais ils s'éclipsent par moments pour ressurgir au sortir d'un virage. Il traverse un bois sombre. Les troncs des arbres sont comme aplatis à la lueur des phares. Juna pense au visage de Parisa quand il lui a transmis le message de Salim. Il avait perçu de la peur et de la surprise. Il dépasse une route latérale privée avec une barrière rouillée quand il entend une sorte de bourdonnement. Le moteur semble se mettre en sur-régime avant de s'éteindre complètement. Juna se range sur l'accotement et allume les feux de détresse. Loin devant lui, les feux arrière de la voiture de Parisa scintillent, puis disparaissent. Juna prend son téléphone, abandonne la voiture et commence à courir sur la route. Le vrombissement du moteur de l'Opel s'est déjà estompé. Tout est silencieux. Les seuls bruits qu'il entend sont ses pas sur le bitume et la friction de ses vêtements. Sur une route sinueuse comme celle-ci, Parisa conduit à peu près 3 fois plus vite qu'il ne court. À chaque minute qui passe, la distance entre eux augmente significativement. La forêt de sapins est dense de part et d'autre de la chaussée. Il dépasse un arrêt d'autobus désert et continue. La forêt s'ouvre et des pâturages embrumés se détachent dans l'obscurité. Il court vite, sachant qu'il peut tenir ce rythme pendant plus de 10 kilomètres. Dans un champ, il aperçoit 2 chevreuils qui se contentent de lever la tête sur son passage.